pile 18h. Le journal Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Tension et fébrilité toute la journée en Catalogne. Finalement, le président catalan se tourne vers le Parlement régional pour décider de la réponse à apporter à Madrid. Explication de Sébastien Berriot. Au Kenya, l'élection présidentielle est reportée à samedi dans 4 comtés de l'Ouest. 3 personnes ont été tuées, correspondance de Laure Broulard. Il n'y a plus que 3 candidats à la présidence du parti Les Républicains. La candidature de Daniel Fasquelle a été rejetée, faute de parrainage suffisant. Analyse de Stéphane Robert. La plaidoirie des partis civils au procès Mera. Pour leurs avocats, la thèse du loup solitaire est une imposture. Compte rendu d'audience de Florence Turm. C'est demain que le Sénat espagnol doit se prononcer sur la mise en œuvre de l'article 155 de la Constitution, article qui suspendrait l'autonomie de la Catalogne. Et à l'approche de cette échéance, on attendait une prise de position claire du président catalan. Carles Puigdemont vient seulement de s'exprimer. Sébastien Berriot, vous suivez de près la crise catalane. Finalement, le président catalan se tourne vers le Parlement régional. Ça n'est pas vraiment l'annonce qu'on attendait.
Oui, Carles Puigdemont a certainement vécu aujourd'hui l'une des pires journées de sa vie politique. Une journée faite de rebondissements, d'annulations et de reports. Le tout traduisant une extrême fébrilité au sein de l'exécutif catalan. À la mi-journée, une déclaration solennelle est annoncée au palais de la Generalitat. Les opposants à la déclaration d'indépendance au sein de l'exécutif pensent alors avoir remporté la partie. Ils s'attendent à ce que Carles Puigdemont annonce des élections régionales anticipées. Un scrutin susceptible de calmer Madrid et éviter peut-être une mise sous tutelle totale de la Catalogne. Mais en début d'après-midi, des milliers d'indépendantistes très mécontents se rassemblent devant le palais de la Generalitat au cœur de Barcelone. Une pression physique qui vient s'ajouter aux menaces politiques dans le camp indépendantiste. Carles Puigdemont finit alors par céder. La déclaration solennelle est reportée à 17h et donc le président décide de ne pas appeler à ces élections anticipées. Il renvoie effectivement la balle au Parlement régional actuel qui sera appelé à dire s'il faut ou pas une déclaration d'indépendance. Retour donc à la case départ.
Et c'est une stratégie surprenante. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, Sébastien ?
C'était un peu ce soir un aveu d'impuissance de la part de Carles Puigdemont. Dans son intervention solennelle tout à l'heure, le président a expliqué avoir tout fait pour trouver une solution, mais sans réponse de la part de Madrid. Il a rappelé ses sacrifices, notamment lorsque le 10 octobre dernier, il a accepté de suspendre le processus d'indépendance sans résultat. C'est un Carles Puigdemont très affaibli qui ressort de cette journée à rebondissement. Un président qui ne semble plus vouloir assumer désormais le processus d'indépendance. La presse catalane souligne qu'en privé, le leader catalan s'est inquiété ces derniers jours des risques sur sa personne en cas de déclaration d'indépendance. Il encourt en effet de lourdes peines de prison ferme dans ce contexte et avec en plus une majorité ingérable. Il a donc préféré céder la place au Parlement.
Et pour Madrid, alors, qu'est-ce que cette annonce change aux yeux du gouvernement espagnol ?
Pour Madrid, le champ est désormais totalement libre pour actionner l'article 155. Mariano Rajoy peut évidemment compter sur le soutien et sur les voix de son propre parti, le PP, les voix aussi des libéraux de Ciudadanos et aussi celle du PSOE. Le Parti Socialiste avait montré quelques réticences, indiquant que des élections anticipées en Catalogne auraient permis d'éviter le recours à l'article 155. Ce n'est désormais plus d'actualité. Le vote au Sénat devrait être une formalité pour le gouvernement espagnol. Madrid va pouvoir prendre le contrôle plein et entier de la Catalogne, notamment les forces de sécurité, les Mossos d'Esquadre. Le ministère espagnol de l'Intérieur en a donné un avant-goût ce matin. Plusieurs dizaines d'agents de la Policia Nationale ont encerclé des policiers régionaux près de Barcelone qui tentaient de brûler, de faire disparaître dans un incinérateur des documents confidentiels avant la mise sous tutelle de la Catalogne.
Merci beaucoup, Sébastien Berriot. 3 personnes sont mortes aujourd'hui dans l'ouest du Kenya en marge de l'élection présidentielle. Une 20aine de personnes ont également été blessées lors d'affrontements avec la police. Le scrutin se déroule sous haute tension. Alors que le président Uhuru Kenyatta appelait les Kenyans à voter en masse, l'opposant Raila Odinga a appelé lui à boycotter l'élection. Le président de la commission électorale lui-même avait reconnu ne pas pouvoir garantir la crédibilité du scrutin. Laure Broulard, vous êtes à Kisumu dans l'ouest du Kenya et il y a beaucoup d'incertitudes ce soir.
Le Kenya donne aujourd'hui l'image d'un pays coupé en deux. Dans les fiefs d'Uhuru Kenyatta, on s'est déplacé en masse pour aller voter, dans des bureaux de vote fonctionnant normalement. Tandis que dans les zones acquises à l'opposition, des échauffourées ont éclaté dès ce matin, retardant et même empêchant l'ouverture des bureaux de vote. Et ce soir, on compte déjà 3 morts en marge d'affrontement entre les manifestants et la police.
Et cet après-midi, Laure, le président de la commission électorale a dû se résoudre à repousser les élections à samedi dans 4 comtés de l'ouest du pays.
Et pour cause. Aujourd'hui à Kisumu, le fief de Raila Odinga dans l'ouest du pays, il y avait de nombreuses routes barrées, des jeunes en colère qui lançaient des pierres et des camions de police, puis des sirènes d'ambulance, mais pas un seul votant. Cet agent de la commission électorale a préféré rester anonyme.
Il n'y aura pas d'élection dans la circonscription du centre de Kisumu, car aucun bureau de vote n'a ouvert. Tout le matériel est bloqué au centre de décompte. Et très peu d'agents de la commission sont venus, car ils craignent pour leur vie.
Et en effet, des groupes de jeunes veillaient cet après-midi à ce que le boycott soit suivi, comme sur le terrain de sport Kenyatta Grounds, qui devait accueillir le plus grand bureau de vote de la ville. En août dernier, plusieurs milliers de personnes étaient venues y voter, mais aujourd'hui, aucun signe d'élection en vue. Écoutez Froze Otieno, partisan de l'opposition.
Je suis ici pour surveiller. S'ils amènent du matériel, nous le détruirons. Il n'y a pas d'élection dans notre pays. Regardez, il n'y a personne qui vote. Car c'est ce que notre capitaine nous a dit, alors nous lui obéissons.
Donc aujourd'hui, alors on peut sérieusement douter de la légitimité de ce scrutin.
Hier déjà, les ambassadeurs internationaux à Nairobi mettaient en garde contre un processus électoral qui a exacerbé les divisions entre les Kenyans. L'élection avait même failli être annulée suite à une pétition déposée devant la Cour suprême et demandant un report du scrutin, citant un contexte politique trop tendu. Mais la plus haute juridiction du pays n'a pas pu statuer, plusieurs juges ne s'étant pas présentés. La mission d'observation de l'Union européenne s'est alors inquiétée de possibles interférences politiques dans le système judiciaire, mettant à mal la crédibilité du scrutin. À tout cela vient s'ajouter une décision de la Haute Cour qui a estimé que les présidents des 290 centres de comptage des voix du pays avaient été nommés de manière illégale par la commission électorale. Cela ouvre la voie à une nouvelle contestation en justice du scrutin et surtout à un prolongement de cette période d'incertitude pour le pays.
Merci Laure Broulard pour ses explications depuis Kisumu, dans l'ouest du Kenya. Le Parlement européen décerne son prix Sakharov 2017 à l'Assemblée nationale du Venezuela et aux opposants vénézuéliens emprisonnés. Il serait plus de 600 d'après les défenseurs des droits de l'homme. Quant à l'Assemblée vénézuélienne, elle a été privée de son pouvoir législatif après avoir été conquise par les opposants au président Maduro. On ne saura pas tout ce soir sur la mort de John Fitzgerald Kennedy, mais c'est tout de même la fin d'un suspense. Le dernier lot de documents classés secrets sur la mort du président américain est publié aujourd'hui. 3000 dossiers qui compilent des dizaines de milliers de pages sur l'assassinat de JFK le 22 novembre 1963 à Dallas. La correspondance de Marco Voltaire à New York.
La date de publication de ce dernier lot de documents avait été décidée il y a 25 ans, selon une loi de transparence votée à l'époque par le Congrès américain, suite à la diffusion du film JFK d'Oliver Stone. Ce film avait relancé les théories du complot autour de l'assassinat du 35e président des États-Unis. Si la grande majorité des quelques 5 millions de documents, des renseignements de la justice et de la police a déjà été publié au fil des années, les experts, historiens et chercheurs espèrent que ce dernier lot pourra éclairer certaines zones d'ombre, comme le voyage de 6 jours au Mexique effectué tué par Lee Harvey Oswald 2 mois seulement avant l'assassinat. L'homme considéré comme l'unique tireur par l'enquête s'y serait rendu pour obtenir des visas dans les ambassades soviétiques et cubaines. Il s'agit aussi d'en apprendre davantage sur les méthodes de travail de la CIA, puisque Lee Harvey Oswald était connu des services de renseignement pour avoir brièvement vécu en ex-URSS alors que l'on se trouvait en pleine guerre froide. À voir si cette publication permettra de définitivement refermer le dossier, car 54 ans après la mort du président Kennedy, la majorité des Américains disent ne toujours pas croire la version officielle.
Ils ne sont plus que 3 candidats à la présidence du parti Les Républicains. Restent Laurent Wauquiez, le grand favori, Florence Portelli et Maël de Calan. En revanche, la Haute Autorité des Républicains a rejeté la candidature du député du Pas-de-Calais, Daniel Fasquelle. Il n'avait pas assez de parrainage, Stéphane Robert, c'est surprenant.
Oui, c'est assez surprenant, car Daniel Fasquelle, c'est le seul parmi tous les candidats sur la ligne de départ à avoir reçu l'aide du grand favori de la compétition, Laurent Wauquiez. Parce qu'au mois de septembre, alors que tous les prétendants étaient à la recherche des parrainages nécessaires pour être candidat, à savoir qu'il faut, selon les statuts du parti, les signatures de 13 parlementaires ainsi que de 2347 adhérents, Il est apparu qu'en dehors du favori, Laurent Wauquiez, les autres avaient beaucoup de mal à remplir les critères. La défaite de François Fillon au premier tour de la présidentielle et dans la foulée l'éviction de nombreux députés aux législatives a découragé de très nombreux militants. Beaucoup sont aujourd'hui aux abonnés absents. Du coup, Laurent Wauquiez, qui avait très peur de se retrouver seul candidat, a œuvré en coulisses pour offrir un certain nombre de parrainages aux députés du Touquet, Daniel Fasquelle. Manifestement, ça n'a pas été suffisant et Wauquiez aura donc face à lui deux adversaires, ceux qu'il n'avait pas choisis. L'ancienne porte-parole de François Fillon, Florence Portelli, qui se revendique de l'héritage et de la filiation politique de Philippe Séguin. Elle s'est finalement qualifiée assez facilement, recueillant les parrainages de près de 6000 militants. Ça a été plus difficile pour l'ex-jupéiste Maël de Calan. Il a tout juste rempli les conditions nécessaires. Pour lui, la campagne s'annonce assez difficile, étant donné qu'il porte l'héritage idéologique d'Alain Juppé, c'est-à-dire celle d'une droite libérale et pro-européenne. Or, une partie de cette droite a décidé de s'associer à Emmanuel Macron pour gouverner, à travers notamment le Premier ministre Édouard Philippe. Quoi qu'il en soit, le grand favori de ce scrutin, les 10 et 17 décembre prochains, c'est Laurent Wauquiez. Il peut s'appuyer sur un cœur militant qui lui est tout acquis et qui est très à droite, car ceux qui restent sont les plus fervents, les plus radicalisés. Raison pour laquelle Wauquiez a d'ores et déjà entamé une campagne très à droite, donc agitant notamment les thématiques identitaires, comme l'avait fait avant lui et en son temps Nicolas Sarkozy.
Merci Stéphane Robert et je signale que sur franceculture.fr vous pouvez trouver un dossier multimédia intitulé « La droite en morceaux ». Il présente la ligne idéologique des candidats Les Républicains, les idées et les valeurs dont chacun se réclame. Emmanuel Macron vient d'arriver en Guyane. Le président doit passer 48 heures sur place et expliquer comment il tiendra les engagements pris le 21 avril par l'ancien gouvernement. L'accord de Cayenne avait mis fin à un mouvement de 5 semaines de contestation. Depuis, la situation n'a pas bougé d'après les représentants du collectif pour que la Guyane décolle. Les banques abusent des plus faibles, c'est l'accusation portée par l'UNAF et 60 millions de consommateurs. Dans une étude publiée aujourd'hui, ils dénoncent le poids des frais bancaires d'incident, qualifié de bouée en plomb pour les personnes en difficulté, Hakim Kasmi.
Aurélie, concrètement, l'enquête porte précisément sur les frais en cas de dépassement de découvert. Et autant le dire, la facture grimpe très vite, car les pénalités pour les personnes vulnérables sont en moyenne 10 fois supérieures. Et c'est la BNP, première banque de France, qui serait la plus rude, selon l'étude, avec des frais pouvant aller jusqu'à 663 euros. Pourtant, la législation est très stricte. Depuis 2013, les frais de dépassement, de découvert, sont plafonnés, tout comme les rejets de chèques et de prélèvements bancaires. Mais les banques ne manquent pas d'imagination pour contourner la loi. Elles ont recours à d'autres stratagèmes, comme par exemple la surfacturation des courriers envoyés aux clients qui font des dépassements de découvert. Les coûts peuvent aller de 12 à 20 euros. Le comparatif montre que le seul bon élève, en fait, est la Banque Postale. L'UNAF, l'Union Nationale des Associations Françaises et Familiales, qui a participé au comparatif, explique également et regrette le manque de dialogue avec la Fédération Française des Banques. Enfin, sachez que selon l'étude, ces frais représentent jusqu'à 6,5 milliards d'euros. Sachez que c'est environ la moitié du bénéfice annuel de la BNP.
Hakim Kasmi, il y a désormais une annexe du tribunal de grande instance de Bobigny à l'aéroport de Roissy. Elle est officiellement ouverte depuis ce matin. C'est dans cette salle d'audience, située au bord du tarmac dans une zone de fret, que sont jugées des personnes étrangères à qui l'on a refusé l'entrée sur le territoire, au juge de décider de prolonger ou non ce maintien en zone d'attente. Des syndicats de magistrats, des associations de défense des étrangers ainsi que les avocats du barreau de Bobigny dénoncent cette délocalisation à l'aéroport et ils sont venus le rappeler aujourd'hui à Roissy, Rémi Brancato.
Pour cette première journée, 13 étrangers sont jugés, retenus depuis dimanche par la police aux frontières. Elles demandent leur maintien dans cette zone d'attente de Roissy. Un Azerbaïdjanais qui a un visa mais pas assez d'argent. Un Guinéen de 68 ans qui vient voir ses enfants sans attestation d'hébergement. Les avocats refusent de les assister pour protester, mais Saïma Razoul plaide quand même pour demander la fermeture de cette salle.
C'est un jour noir pour la justice puisqu'on a inauguré une juridiction d'exception au pied des pistes pour juger des personnes étrangères. C'est un droit constitutionnel d'être jugé dans un tribunal où il y a des avocats, où il y a des greffiers, où la famille peut venir.
Ce tribunal qui jugeait les étrangers jusqu'ici, c'est à Bobigny, à 15 km de là. Et pendant ce temps, la ministre de la Justice le visite. Un pied de nez dénonce l'avocate.
Elle est venue au tribunal de Bobigny pour voir une salle d'audience vide. Elle aurait dû venir ici. Aujourd'hui, on n'avait pas assez de chaises pour tout le monde. Et là, nous dire que oui ou non, les conditions de dignité étaient respectées.
Le défenseur des droits a demandé un report de ce projet qui ne garantit pas, selon lui, un procès équitable. À Bobigny, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, lui répond.
Nous avons veillé à ce que toutes les conditions d'impartialité, de dignité, de conditions d'accès soient réunies et je crois qu'elles le sont vraiment.
Les associations et les avocats ne sont pas convaincus, ils promettent de saisir les juridictions européennes.
Rémi Brancato, à Roissy, 150 cheminots de la SNCF viennent d'être déboutés par le Conseil des Prud'hommes de Paris. Ils réclamaient la reconnaissance d'un préjudice d'anxiété pour avoir été exposés à l'amiante au cours de leur carrière. Les salariés et le syndicat Sudrail ont été déboutés de l'ensemble de leurs demandes, mais ils comptent faire appel, Sarah Petitbon.
Oui, 150 cheminots, anciens techniciens de maintenance, électriciens ou conducteurs, tous exposés à l'amiante à un moment de leur carrière, ce qui leur vaut depuis de passer régulièrement des examens médicaux pour détecter la apparition d'un cancer, une maladie qui peut survenir jusqu'à 30 ans après l'exposition. Et ce que veulent faire reconnaître ces cheminots, c'est le stress permanent lié à la peur de tomber gravement malade. Un stress reconnu par la justice sous la forme du préjudice d'anxiété aux seuls salariés bénéficiant déjà de l'ACATA, l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Or, cette allocation ne concerne que les salariés du secteur privé, une situation que dénonce Dominique Malveau du syndicat Sudrail.
Au lieu d'infirmer le premier jugement qui confirmait que le préjudice d'anxiété existait bien sur l'amiante, ils ont décidé de le limiter uniquement aux premiers plaignants, c'est-à-dire à ceux qui dépendaient de la sécurité sociale, et puis maintenant de bloquer tous les autres. Nous, ce qu'on dit, d'abord c'est tout à fait injuste, mais en plus ça va contre un autre principe de justice qui est l'égalité de tous devant la loi. C'est pas parce qu'on n'est pas de la sécurité sociale qu'on est d'une caisse particulière que l'amiante a fait moins de dégâts et que le préjudice d'anxiété n'existerait pas. C'est un véritable scandale et nous, on se bat pas pour l'argent là. On se bat pour une reconnaissance, on se bat pour que la souffrance de ces salariés qu'on a fait travailler sur l'amiante pendant des années en leur disant qu'il n'y avait aucun danger, qu'ils pouvaient y aller sans problème, que ça soit réparé et ça passe bien sûr effectivement par de l'argent et par des condamnations judiciaires.
Dans un premier temps, les agents déboutés vont donc faire appel de la décision. Ils pourraient ensuite se tourner vers la Haute Cour de justice européenne.
Sarah Petitbon. Incendie criminel cette nuit contre la brigade de gendarmerie de Meylan en Isère. De tels actes peuvent s'apparenter à des actes de terrorisme, déclare le procureur de Grenoble, Jean-Yves Coquillat. Il parle de faits d'une gravité extrême et d'un modus operandi assez professionnel faisant penser à la mouvance anarcho-libertaire. Nous aurions pu avoir une affaire absolument dramatique avec des morts et des blessés, ajoute le procureur. Quel a été le rôle d'Abdelkader Mera dans la préparation des tueries de Toulouse et de Montauban? Dans quelle mesure a-t-il aidé, voire incité son frère Mohamed? Dans leur plaidoirie devant la Cour d'assises spéciale de Paris, les avocats des parties civiles balayent aujourd'hui la thèse du loup solitaire, le compte-rendu d'audience de Florence Turme.
À 20 ans, on a le visage qu'on vous donne. À 60 ans, on a le visage qu'on mérite. Myriam, Gabriel, Arié, Jonathan n'auront jamais le visage qu'ils méritaient. Simon Cohen plaide pour les familles Sandler et Monsenego qui ont perdu leurs enfants à l'école aux Aratora, mais il va dire aussi l'infinie capacité de souffrance de toutes les victimes. Nous ne venons pas seulement avec nos chagrins, mais aussi avec des preuves, poursuit l'avocat. La cour n'est prisonnière de rien. Vous devez retenir tous les éléments du dossier, tout ce qui vous paraît probant. Ce que l'on demande à la justice, renchérit son confrère Olivier Maurice, ce n'est pas de condamner Abdelkader Mera pour les crimes commis par son frère, c'est de dire si oui ou non il y a eu complicité. Cette accusation que la défense s'est efforcée de mettre à mal tout au long du procès, la thèse du loup solitaire, répète l'avocat, c'est une imposture. Imposture, le mot résonne dans une autre plaidoirie encore, celle de Philippe Soucy qui représente cet adolescent blessé à l'école de Toulouse et qui n'a pas pu, il le dit à sa place, venir voir les barbares qui ont bouleversé sa vie. L'imposture, celle d'Abdelkader Mera quand il affirme n'avoir jamais eu conscience des intentions de son frère, jamais été son mentor, jamais été un musulman terroriste ni un antisémite. Abdelkader Mera, si on l'écoute, lance Philippe Soucy, c'est peace and love, le Martin Luther King des Isards. Quand tout dans ce dossier le distingue comme le mentor, celui qui a forgé la haine djihadiste de son frère. L'avocat regarde les juges, mais c'est bien à l'accusé, impassible dans son box, qu'il s'adresse. « Je crois, dit-il, que vous avez perdu. Dans vos rêves les plus fous, vous vouliez un monde sans juifs, sans chrétiens, sans militaires, sans koufars. Comme d'autres ont voulu un monde sans terrasses et sans concerts, vous avez perdu, monsieur Mera, car vous n'imaginez pas à quel point nous aimons la vie. »
Florence Turme, au Palais de justice de Paris. Les plaidoiries doivent se poursuivre au moins jusqu'à demain soir. Le Grand Prix du roman de l'Académie française est décerné à Daniel Rondeau. L'ancien ambassadeur de France à Malte est récompensé pour son roman « Mécanique du chaos » paru chez Grasset. Un livre qui décrit la préparation d'un attentat islamiste en France. Et puis, l'écrivain Jean-René Van der Pletsen a reçu, lui, le prix Jean Giono pour « La nostalgie de l'honneur » paru chez Grasset. Un essai consacré à la figure de son grand-père, le général Jean Chrétien. Crépin, compagnon de la Libération et héros de la 2e DB. Du soleil demain sur les Alpes et la région méditerranéenne, mais avec du vent. Ailleurs, le temps sera maussade. Les minimales seront douces, 8 à 14 degrés d'est en ouest. Maximales en baisse, 14 à 26 degrés du nord au sud. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.